Report éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 6 décembre 2001 à Saint-Judas.
Dans l'amitié, mon ami me finalise partiellement, partiellement. Il est mon bien. Pourriez-vous m'expliquer la différence entre le bien et la fin, du point de vue métaphysique, du point de vue éthique? Est-ce une différence formelle? Alors, le bien, c'est la réalité existante. L'ami est une personne que j'aime, qui m'attire. Le bien attire. Il y a une attitude passive, mais en même temps active, vis-à-vis du bien, vis-à-vis du bon, d'une bonne personne, mon ami. Alors, la fin, c'est déjà toute une réflexion, puisque le bien peut devenir fin. Il devient fin. Vous voyez, c'est pas la fin qui devient bien. Il faut bien saisir l'ordre. C'est le bien qui m'attire. C'est pas la fin qui m'attire, c'est le bien qui m'attire. Et qui crée en moi un amour. J'aime le bien. J'aime mon ami. Mon ami, c'est une personne que j'aime, qui m'attire. Et si cet amour est suffisamment fort, il devient fin. C'est en aimant que le bien se transforme en moi comme une fin. C'est déjà beaucoup plus élaboré, la fin. Toute philosophie accepte le bien, même Descartes. C'est le comble. Descartes distingue le bien confiture, c'est-à-dire passionnel. On peut être passionné pour le miel, pour le bien, pour le confiture. C'est bien. C'est un bien. Confiture. Et c'est le premier bien. L'enfant aime le sucre. Il cherche après. Alors, le bien est toujours sucré. Oui. Et il y a un éveil passionnel pour ça fait du bien. Puis progressivement, le bien n'est plus uniquement confiture et miel. Il devient une personne bonne. Une personne bonne. C'est pas le bien, c'est une personne bonne. C'est agréable. C'est agréable pour moi de parler à quelqu'un qui m'aime et que j'aime. C'est agréable. Puis progressivement, ce bien devient fin. C'est-à-dire que toutes mes activités, il les ramasse, il les unit pour que ce bien personnel devienne une fin. La fin est un principe qui ordonne mes activités. Vous voyez, l'amour, tout simplement du bien, j'aime le bien, ne joue pas tout de suite le rôle de fin. C'est rare, sauf quand c'est vraiment un amour qui me saisit directement, très fortement, et qui change toute ma vie, bouleverse toute ma vie. Oui, mais c'est quelquefois très imaginatif. On voit ça dans les mariages. C'est un bien. Oh, j'ai trouvé l'âme sœur, et tout est changé. tout est changé dans ma vie. Alors, quand je dis tout est changé dans ma vie, c'est le bien qui devient fin. Il devient ce qui donne un sens à mes activités autres. Quand j'aime quelqu'un et que cette personne devient mon ami, toutes mes activités humaines sont changées en fonction de cette amitié. Il y a un ordre qui se fait dans cet amour. Et à ce moment-là, cet amour me finalise. Vous voyez, le bien ne me finalise pas lui-même tout de suite. Je l'aime. Et quand le bien me finalise, il y a ce bien, cet amour que j'ai pour ce bien qui joue le rôle d'ordonner toutes mes activités en vue de cette activité particulière, l'amour que j'ai pour cette personne. Oui. Dans l'idée de ce qui me finalise, il y a toujours le point de vue, il ordonne mes activités. Et c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Ça peut être la même réalité qui devient ma fin. Elle est d'abord. Et c'est pour ça que peut très bien exister dans une philosophie chez Descartes. Il y a un amour passionnel, mais il n'y a plus de fin. Un amour passionnel n'ordonne pas. Il attire d'une façon telle que tout le reste n'existe plus. La passion aveugle. Tandis que quand c'est un bien spirituel qui m'attire, un bien spirituel, le bien de l'ami, qui est à la fois sensible et spirituel, il ordonne mes activités. Et c'est très différent. Être finalisé par le bien, c'est être attiré par lui, une attraction telle qu'elle, de l'intérieur, elle ordonne mes diverses activités. Et je suis finalisé à ce moment-là. L'ami peut finaliser mes activités. Et je l'aime avant qu'il finalise. Alors ça peut se faire très vite. Ça dépend. Normalement, ça ne se fait pas très vite. Normalement, dans l'amour, l'aspect sensible est très grand. Puis petit à petit, cet amour sensible laisse quelque chose de beaucoup plus profond que l'amour spirituel. Et c'est cet amour spirituel où le bien aimé, la personne aimée, joue le rôle de fin. Donc c'est beaucoup plus élaboré la fin. C'est pour ça que certaines philosophies peuvent encore parler du bien, mais ne parlent pas de la fin. C'est très curieux de voir comment, dans une philosophie, la finalité disparaît. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, comment se fait-il que dans le thomisme, où saint Thomas découvre, et c'est la grande découverte de saint Thomas, grâce à Aristote. Pourquoi saint Thomas a-t-il été Aristote ? C'est parce qu'il a découvert en lui quelqu'un qui avait le sens de la finalité. Et que lui n'avait pas découvert avant. C'est très net, ça. Chez saint Thomas, c'est qu'il a découvert chez Aristote la finalité. Il a découvert la différence entre l'énergeia et l'entelekeia. Et c'est une grande découverte parce que aujourd'hui, quand on parle de fuménologie, il n'y a pas de distinction. La fin, c'est ce que j'aime. Ah, c'est pas la même chose. Ce que je n'aime a été source. Oui, ma fin a été source de mon amour. Et de l'ordre dans mon amour. Parce que la fin joue le rôle de principe final lorsqu'il ordonne. Or, la fin ordonne en moi mon amour. Donc, la différence entre le bien et la fin, c'est lorsque le bien devient principe qui me finalise. Du point de vue métaphysique, du point de vue éthique, la fin suscite en moi une intention. Quand j'aime, il n'y a pas nécessairement d'intention. Je peux aimer. L'amour pur, c'est... Mais l'amour qui s'intellectualise, c'est-à-dire j'ai conscience de cet amour, ma vie est changée. Et ce bien ordonne en moi toutes mes forces d'attraction. Donc, c'est très important de distinguer le bien à la fin. Le bien, c'est le premier pas vers la fin. Je peux aimer beaucoup de choses dans l'ordre sensible qui ne sont pas pour moi fins. Je peux aimer quelqu'un d'un amour sensible qui très bien ne finalise pas ma vie. Et lorsque ce bien finalise mes activités, il joue le rôle de fin. Pouvez-vous, mon père, pour adorer, faut-il absolument la découverte philosophique de Dieu, ou bien les traditions religieuses sont suffisantes pour cela? C'est bien évident, parce qu'il y a tellement peu d'individus pour qui la philosophie permet une découverte vraie de Dieu. Et pour nous, dans une civilisation qui a été chrétienne, qui encore est chrétienne, donc le mystère de la foi est très souvent antérieur à ma métaphysique. Heureusement, je crois en Dieu. Je crois en l'existence de Dieu. Et ça repose sur le fait que mes ancêtres, mes amis croient à l'existence de Dieu. Et je n'ai pas par moi-même découvert l'existence de Dieu. Si je commence à faire de la métaphysique, je peux alors me poser la question, est-ce que mon intelligence, grâce à l'amour que j'ai de la vérité, je dis grâce à l'amour que j'ai de la vérité, il faut aimer profondément la vérité pour découvrir l'existence de Dieu. C'est antérieur, ça. Si vous n'avez pas un très grand amour de la vérité, vous ne découvrez pas l'existence de Dieu. Mais si vous avez un très grand amour de la vérité, vous découvrirez l'existence de Dieu. Oui, c'est très important. Mon intelligence se développe dans l'amour. Mon intelligence ne s'éveille pas en dehors de l'amour. Il faut l'amour de la vérité pour que mon intelligence s'éveille. Et ça, c'est très net par rapport à la métaphysique. Pour les mathématiques, c'est pas l'amour des mathématiques, c'est parce que c'est la séduction que les mathématiques exercent sur moi. Alors là, j'entre en mathématiques. en cette sorte que les mathématiques ne développent pas mon amour. Ce n'est pas l'amour de la vérité, c'est l'amour de la certitude des calculs mathématiques, du raisonnement mathématique. Oui, c'est beaucoup plus un auto-amour. C'est l'amour de la certitude qui fait aimer les mathématiques. Tandis que la métaphysique, c'est l'amour de la vérité. C'est pas la même chose du tout. On passe de l'un à l'autre facilement quand on n'est pas trop pris par les mathématiques. Quand on est très pris par les mathématiques, c'est-à-dire qu'on a fait des mathématiques pendant des années et des années, et des années de sa jeunesse, c'est très difficile de changer de vitesse pour aimer la vérité. Parce que l'amour de la certitude me donne des vérités dont je suis certaine. Alors, il y a un amour de ma connaissance mathématique. L'amour des mathématiques, c'est l'amour de la connaissance, de la certitude. Il n'y a pas de connaissance humaine aussi certaine que les connaissances mathématiques. Il y a des évidences plus grandes, mais pas des certitudes. Et c'est pour ça que les mathématiques sont si attrayantes, à cause de la certitude. Alors, comprenons que dans un climat de chrétienté, il est bien évident qu'on a cru à Dieu avant de le découvrir au plan métaphysique. Mais je puis, même je dois, si je peux le faire, découvrir l'existence philosophique de l'existence de Dieu. Je dois le faire pour pouvoir adorer Dieu d'une façon plus parfaite, plus profonde. Tant que je crois en l'existence de Dieu, je crois parce que les traditions religieuses sont suffisamment surabondantes pour croire en l'existence de Dieu. Dieu m'est donné par ma croyance, pas la foi, la croyance. C'est très bien, mais il y a une connaissance de Dieu plus parfaite qui se fait lorsque je découvre l'existence de Dieu. Ma foi chrétienne, au fond, me laisse le temps de considérer que les preuves métaphysiques de l'existence de Dieu ne sont pas d'une exigence absolue. Et la foi rend paresseux. Et c'est ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, c'est des chrétiens paresseux. Et le fidéisme est beaucoup plus fort qu'on le pense. Pape précédent, celui-ci, Paul, tout à fait celui qui n'a vécu que très peu de temps, comme pape, mais le pape précédent, disait que le plus grand danger actuellement dans l'Église, c'était le fidéisme. Là, j'ai entendu mes propres oreilles. Il était très intelligent. Il avait un amour extraordinaire au plan plus métaphysique. Et il disait le fidéisme, c'est la paresse. Puisque je crois en Dieu, je n'ai pas besoin de chercher. Alors c'est deux choses totalement différentes. Je crois en Dieu parce que je crois par le Christ en Dieu, ma foi chrétienne. La foi chrétienne ne remplace pas la métaphysique. Et si je veux vraiment croire en Dieu, y croire le plus parfaitement possible, je dois chercher à prouver l'existence de Dieu. Mais il faut bien dire qu'au point de vue pratique, les traditions, et au point de vue éthique aussi, les traditions de l'existence de Dieu suffisent. Autrement, serait terrible de croire être un peu dur. Si au bout de 3 ans de philosophie, vous arrivez à vraiment prouver l'existence de Dieu métaphysiquement, très bien. Je vous salue. Au bout de 3 ans de philosophie, très peu arrivent à une preuve évidente de l'existence de Dieu. Alors, ils commencent leur théologie, ils ne s'en inquiètent plus. Ils restent dans leur vie, tout simplement, parce qu'ils ont la foi. C'est très bien, c'est évident, mais la foi ne remplace jamais la connaissance métaphysique. Il faut vous mettre ça dans la tête. Et nous, nous avons un devoir d'arriver aux preuves évidentes de l'existence de Dieu. Nous sommes donnés au Christ pour croire pour les hommes, pour l'humanité, de découvrir l'existence de Dieu. Comme ce qui est normal à une intelligence saine, pas sainte, mais saine. Mon intelligence est faite pour découvrir l'existence de Dieu. Et ma foi ne remplace pas cette finalité, découvrir l'existence de Dieu. C'est par là que mon intelligence devient adulte. Et je deviens jeune homme, comme dirait Saint Jean, son premier épître. Mon intelligence devient adulte quand elle est arrivée à prouver l'existence de Dieu. Tant que mon intelligence n'a pas découvert la possibilité et l'évidence de la démonstration de l'existence de Dieu, mon intelligence demeure infantile. J'atteins pas la sagesse. C'est parce que je vis dans un milieu chrétien que je crois. C'est très bien. Mais si on doit être père, je vous écris enfant, je vous écris jeune gens, je vous écris père. Il faut arriver à la démonstration évidente de l'existence de Dieu. Il faut que ce soit pour nous une évidence. Alors, si c'est pour nous une évidence, on pourra transmettre ça aux autres et les aider vraiment à découvrir ce que c'est qu'une intelligence personnelle capable d'enseigner. Oui. Donc, aujourd'hui, on fait faire le catéchisme par beaucoup de personnes qui n'ont rien du tout au point de vue métaphysique, mais rien du tout. C'est très triste. Parce qu'on devrait être théologien pour enseigner. Or, théologien exige la métaphysique. Vous n'êtes pas théologien si vous n'avez pas la métaphysique. Celui qui n'a pas la métaphysique n'est pas théologien. au sens propre. Alors la métaphysique, elle demande que notre intelligence puisse découvrir l'essentiel. Et celui qui désire pouvoir découvrir cette essence de Dieu par son intelligence, tôt ou tard, au bout de 3 ans de philosophie, ou bien de 4 ans de philosophie, le découvre. Et ça met du temps. On ne va pas, en première année de philosophie, vouloir découvrir l'essence de Dieu. Il faut au moins 2 ou 3 ans. Et c'est capital pour faire de la théologie. Si vous n'avez pas atteint le degré métaphysique, vous ne pouvez pas faire de la théologie. L'encyclique du pape, hein, Ratio et Fides, est nette là-dessus. Vous répétez. C'est très bien, la plupart des théologiens répètent. Répétez en grand théologien, très bien. Répétez en grand théologien Saint Thomas, vous ne ferez pas de bêtises. Alors, on est répétiteur. Et la plupart du temps, on a qui enseigne le catéchisme, on est répétiteur. Surtout que le catéchisme est bien fait. Alors, très bien, on est content de ça. C'est très différent d'enseigner à partir du catéchisme et faire de la théologie. Faire de la théologie exige une intelligence métaphysique. Pour moi, autrement. Autrement, vous faites de l'histoire. Mais dans l'histoire, vous êtes répétiteur. Vous répétez ce que les autres ont dit. Donc, si vous avez un bon cheval sur lequel vous pouvez monter, qui est Saint Thomas, alors vous ne direz pas de bêtises. C'est énorme, ça. Mais quand vous prenez Saint Thomas uniquement de cette façon-là, ça vous fatigue. Vous faites ça au début, à ce pot, c'est découvert, c'est étonnant. Mais au bout d'un certain temps, vous dites, ah, il faudrait que j'arrive à comprendre. L'intelligence aime de répéter. Et quand elle répète Saint Thomas, c'est pas mal, hein. C'est déjà quelque chose. Mais on est, quand on répète, on est infantile quant à son intelligence. On est celui qui répète. Alors, quand on est un petit peu féroce, voir si vraiment vous répétez ou que vous avez compris, on pose une bonne question alors qu'il déroute complètement celui qui répète et on voit qu'il ne sait pas. Il tombe dans le lac. Et alors, la plupart des gens, il faut bien dire ça, la plupart des gens et la plupart des chrétiens ne peuvent pas arriver à une démonstration métaphysique de l'existence de Dieu. Il leur suffit d'y croire. Mais si on enseigne, ah, c'est autre chose. Si on est répétiteur, c'est différent. Mais si on enseigne, bon. Alors continuons. Disait que l'éthique religieuse présuppose qu'on a découvert l'existence de Dieu. Et l'éthique religieuse comme philosophie réclame la démonstration de l'existence de Dieu. Si je ne fais que répéter, c'est très bien, vous pouvez continuer votre éthique religieuse, mais elle sera toujours en dépendance de l'acte d'obéissance que vous avez fait à tel ou tel grand personnage, Saint Augustin, Saint Thomas. Et vous pourrez continuer à faire l'éthique religieuse. Mais vous enseignerez l'éthique religieuse que si vous-même vous avez compris l'existence de Dieu. Autrement, on pourra toujours vous arrêter au bon endroit. Dei, que mon intelligence a découvert l'existence d'un être premier qui est mon créateur, immédiatement, j'aime celui qui est le créateur de mon âme. Je l'aime parce qu'il m'a donné gratuitement mon âme. C'est un cadeau total, une gratuité totale. Dieu n'avait pas besoin de moi. Et si Dieu a voulu me créer, créer mon âme, il l'a fait dans un pur don. C'est un don d'une gratuité absolue. Et je le reconnais. Et cela fait partie des actes d'adoration. L'acte d'adoration vécu vraiment me met dans la vérité. La vérité première, c'est ça, c'est de reconnaître que mon âme est créée par Dieu. Vous voyez que cela suppose donc qu'on ait découvert non seulement l'existence de Dieu, mais aussi l'âme. Les deux choses se tiennent. Vous n'avez pas d'éthique religieuse si vous n'avez pas découvert l'âme, dont le premier acte doit être un acte d'adoration à l'égard de Dieu. Cet acte d'adoration me maintient dans une très grande souplesse, une très grande docilité à l'égard de Dieu. La dévotion. Je suis dévoué à Dieu. Dieu peut tout me demander car il m'a tout donné gratuitement. Donc il peut tout me demander. Car de la part de celui qui adore, tout de suite une attitude d'abandon. Je crois qu'on ne peut pas adorer sans avoir cette attitude d'abandon, qui est l'attitude normale de l'éthique religieuse. Je reconnais que Dieu m'est ayant créé mon âme librement, il est le père de mon âme. Et comme il est infiniment bon, il a vis-à-vis de mon âme une conduite providentielle. Il ne peut pas créer mon âme et la laisser se perdre. Il y a donc ce qu'on appelle la providence. La providence, on y croit à partir de l'adoration. Et s'il n'y a pas adoration, il n'y aura pas de providence. Et la providence permet l'abandon. Et ça se tient tout ça. Ça se tient et ça permet, quand on est vraiment dans une attitude d'abandon, vis-à-vis de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu, qui par un pur amour a créé mon âme. Cette attitude d'abandon qui prend possession de moi-même me met donc dans une attitude de, on ne peut pas dire de filiation au sens absolu. Dieu est père de mon âme, mais cela ne veut pas dire que je suis appelé à vivre de ce que Dieu vit. Là, il y a un problème très délicat. Jusqu'où pouvons-nous, au point de vue humain, au point de vue philosophique, aller pour découvrir la finalité de l'âme? Je crois qu'on peut dire que Dieu a créé librement mon âme et qu'il l'a créée dans sa sagesse. Découvrir la sagesse de Dieu naturellement. Dieu a créé mon âme dans sa sagesse. Parce que Dieu a créé mon âme dans sa sagesse, il ne peut pas m'abandonner à mon triste sort sans me soutenir et me donner une finalité digne d'un enfant de Dieu, d'une finalité qui touche l'attitude de l'enfant vis-à-vis de Dieu. Alors là, il y a un problème très délicat, puisque nous ne pouvons pas préciser philosophiquement quel est ce que Dieu prépare pour nous. On pourrait dire qu'il y a un abandon naturel d'être dans les mains de Dieu qui fait que on sait et on en est sûr qu'on est dans les mains de Dieu et que être dans les mains de Dieu nous met dans un état d'abandon et de confiance totale. Dieu ne nous décevra pas. Et je ne sais pas jusqu'où sa bonté pourra aller jusqu'à moi, juste pour moi, mais je sais qu'il ne veut pas abandonner un être créé par lui avec l'intelligence qui lui donne. Il oriente vers une recherche de vérité. Dieu ne veut pas ne pas satisfaire ce désir. Je ne peux pas aller plus loin. Cet état-là, du reste, philosophiquement, purement philosophiquement, n'a jamais existé. Dieu a toujours créé en vue d'une fin précise. Il n'a jamais laissé l'homme, mais il y a une période chassée du paradis terrestre jusqu'à Abraham. Au fond, Dieu n'a pas précisé, mais Dieu a montré qu'il était là, le déluge. Et Dieu a montré que l'homme livré à lui-même risque toujours de s'enorgueillir. Mais il n'a pas précisé. Il précise avec la promesse d'un rédempteur, d'un sauveur. Et c'est cette promesse d'un sauveur qui ponctue toute l'histoire du peuple d'Israël. ponctue par le peuple d'Israël toute l'histoire de l'humanité avant le Christ. Alors, au point de vue philosophique, je constate. Je ne peux pas aller plus loin. Je constate qu'il y a une religion plus parfaite que toutes les autres, qui est la religion chrétienne. Où, de fait, l'homme ne peut pas être abandonné de Dieu, que nécessairement il est soutenu par lui et que Dieu vient à son aide. Alors l'éthique religieuse me met dans la disposition de comprendre que Dieu donne à l'homme un privilège merveilleux qui est la foi en sa parole. Et Dieu a parlé à un homme, Abraham. Il a parlé à Abraham pour moi. Et nous avons toute cette grande attente de l'Ancien Testament jusqu'à la venue du Christ. Le point de vue surnaturel, là c'est, je crois, très important. Le point de vue surnaturel reste gratuite, d'une gratuité absolue. Mais il est comme postulé par la finalité. Vous voyez, le problème de la grâce et de la nature a toujours, du moins chez les thomistes, a été surtout traité par la causalité formelle. Et de fait, aujourd'hui, il est beaucoup plus traité par le point de vue de la finalité. Et il devrait être traité par le point de vue de la finalité. Au point de vue de la cause formelle, c'est très net. La nature humaine ne peut pas, par elle-même, désirer être surnaturelle, sauvée. Mais au point de vue de la finalité, l'homme, dans sa fin, sa finalité, ne peut pas rester sur lui-même. Lui-même ne peut pas le finaliser. Il n'y a que Dieu qui peut le finaliser. Et donc, il y a comme une espèce de désir naturel. Désir naturel, c'est la finalité. Désir naturel d'être proche de Dieu. Ce désir surnaturel, il n'est pas naturel. Je ne peux pas prétendre l'avoir naturellement, mais je peux le recevoir de Dieu. Et de fait, c'est ce qui a existé. Donc, le philosophe peut reconnaître que l'éthique religieuse ne veut pas se suffire à elle-même. Elle est en attente d'une éthique chrétienne. Mais il peut reconnaître que sans le secours de Dieu comme sauveur, tout reste inachevé. Et donc là, une instance que je crois très très importante est de bien saisir les deux points de vue, le point de vue de la cause formelle qui nous fait dire que nous n'avons jamais le droit à un bonheur surnaturel. Et le point de vue final, tout en nous appelle la gratuité divine.